Radio Couleur Chartreuse vous présente La Saine Cause. Du bien commun, de l'éducation populaire, des rencontres. Tous les jeudis à 20h et les dimanches à 15h. Émission proposée et présentée par André Duny.
Bonjour, je voudrais vous parler, et comme sur la vaccination il y a beaucoup d'opposition, je voudrais vous faire parler de quelque chose qui sont des faits bien établis, hein, pas de fake news. Je ne suis pas un anti-vax forcené, je suis vacciné au tétanos, etc. Mais je suis très réticent à l'égard des différentes variantes de ces vaccins d'aujourd'hui contre le coronavirus et sa variante Delta qui fait cette quatrième vague. Permettez que des faits. La pharmacovigilance, c'est le fait que des médecins, des organismes, des hôpitaux ou des particuliers font remonter l'information sur les effets secondaires de la vaccination. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand il y a eu cette vaccination quasi obligatoire pour l'entrée en sixième contre l'hépatite B, quelques temps après, il y a eu, et même assez longtemps après, il y a eu des effets secondaires dramatiques. Et là, je me suis dit, mais quel con j'ai été de vacciner mon fils à son entrée en sixième, car les effets étaient importants. Aujourd'hui, les amis, il y a une enquête de Dr Mukieli, non, du sociologue, ou Dr Mukieli, puisqu'il y a un sociologue qui s'appelle Mukieli à Nice, je crois que c'est le docteur, parce qu'ils sont une équipe de 6-7 où il y a des médecins et des sociologues, qui a enquêté pendant 6 mois sur les bases de données aux États-Unis et en France, qui ont compté les nombres de morts occasionnés par l'administration des différents vaccins contre la grippe saisonnière. Donc, ils ont fait le bilan sur 30 ans de vaccins contre les grippes saisonnières aux États-Unis. Ils l'ont fait aussi pour l'Europe. Hein. En 30 ans, dans les registres américains, de 1990 à 2020, les vaccins contre les grippes saisonnières ont occasionné 1106 décès. Alors là, les décès, on les prend dans les 48 heures, pour pas que ce décès soit imputé à autre chose, hein, n'est-ce pas? On ne prend que cela. On peut très bien décéder dans un délai supérieur d'un vaccin, mais on tient les 48 heures pour être rigoureux. Ça n'est pas causé par autre chose. Donc en 30 ans, ces vaccins ont occasionné 1106 décès. Je rappelle, aux États-Unis, 330 millions d'habitants. Ce qui représente 6% du total de la mortalité vaccinale depuis 30 ans. Ça veut dire qu'aux États-Unis, tenez-vous bien, en 6 mois, la vaccination anti-Covid a tué 5 fois plus de personnes que toutes les vaccinations anti-grippe en 30 ans. Voilà, ça sont des faits. En 30 ans, les vaccins anti-grippe ont occasionné 100 100 décès, mais la vaccination anti-Covid en 6 mois a contribué à tuer, enfin, il ne faudrait peut-être pas employer le terme tuer, hein, a eu comme effet secondaire de faire décéder dans les 48 heures 5 fois plus de personnes que la vaccination tri-grippe en 30 ans. C'est ce document, alors il est long, hein, il y a 7 pages, c'est un peu compliqué parce que c'est des enquêtes statistiques. Hein. Je répète, la statistique se fait dans les 48 heures. Elle se fait dans des registres qui sont des registres d'état obligatoires, effets secondaires vaccination. Le taux de remontée dans pour ces registres est en gros de 5%. C'est-à-dire sur 100 personnes vaccinées, on a 5 personnes soit directement, soit par l'intermédiaire de leur médecin, de leur hôpital, de leur pharmacie, qui font remonter un effet indésirable. À savoir, ben, il a telle thrombose, il a ceci, il a cela, il est hospitalisé, il est dans un état grave, il a eu des séquelles pendant 2 ans, etc. Ben non, parce que on prend un délai extrêmement court et on fait remonter ce qui va très mal. 5% de remontée. Vous vous rendez compte que sur 5% de remontée, on a plus, 5 fois plus de personnes décédées que la vaccination de tous les antigrippes depuis 30 ans. Donc là, il y a un motif d'inquiétude. Alors, je ne vais pas vous donner les chiffres pour l'AstraZeneca, parce que c'est plutôt des AstraZeneca avec lesquels ont été vaccinés l'immense majorité du personnel médical. Enfin, pas l'immense majorité, parce que la majorité était opposée à la vaccination forcenée. Surtout qu'on les avait envoyés au front, au début, sans blouse, sans masque, sans gel hydroalcoolique. Il y en a toujours un peu dans les hostos, mais une paire de gants, des blouses avec des sacs poubelles, des lunettes de ski, ça fait quand même pas la même protection que du matériel médical stérile et bien formaté pour ce genre de mission. Donc on les envoyait au... Et maintenant on veut les vacciner de force en disant ils vont être vecteurs. Mais désolé, vous le savez, que les gens vaccinés sont également vecteurs. Au début, on nous a dit, ouais, mais quand vous serez vacciné, c'est Blanquer qui l'a dit, ouais, mais les enfants vaccinés, ils vont pas infecter les autres. Mais Blanquer, 0 sur 20, monsieur le ministre de l'Éducation nationale, parce qu'en Israël et en Islande, Islande, c'est le pays le plus vacciné du monde, hein, max 85% des plus de 12 ans est vacciné. Donc on a atteint largement ce qu'on appelle le seuil de sécurité vaccinale qui fait que ça éteint la pandémie. Eh bien, l'Islande n'échappe pas à la quatrième vague. Hein. Mais soyons bien clairs que sur les hospitalisés, les formes graves sont assez rares. Il y a peu de victimes. Donc, soyons clairs, la vaccination avec ARN messager protège contre les formes graves, mais ne rend pas non contaminant et ne vous protège pas d'être à nouveau contaminé, sauf que vous aurez beaucoup moins de formes graves. Donc, qu'est-ce que l'on peut dire de ces chiffres ? Eh bien que les personnels médicaux français avaient peut-être raison de se méfier et d'être réticents à la vaccination, avant nous qui sommes honnêtement réticents à la vaccination. Pour ces raisons de, comment dire, pour ces raisons d'effets secondaires des vaccinations, et bien sûr, pour donc cette mortalité inédite, ça n'est jamais arrivé que les vaccins tuent autant de monde. Hein, cette tribune a été publiée le 30 juillet sur le blog de Laurent Mukeli et hébergée chez Mediapart. Et Mediapart l'a désinscrit sous la forme parce qu'elle subit des pressions et l'a réinscrit pour vous dire quelle bataille il y a autour de ces choses-là. Et pourquoi il y a une bataille autour de ces choses-là ? Parce que la pharmacovigilance, si elle révélait l'intégralité des effets secondaires des vaccins anti-Covid, elle menacerait l'idéologie de la vaccination intégrale portée par qui ? Premièrement, par l'industrie pharmaceutique, toute privée, et par les gouvernements, tous au service du privé, et par les principaux médias, tous propriétés des milliardaires, dont certains milliardaires de Big Pharma, c'est-à-dire des grands laboratoires. Voilà pourquoi les gens se méfient. Ils sentent bien, un, que notre santé est entre les mains d'intérêts privés, Big Pharma, grands laboratoires. Par exemple, chez nous, notre grand laboratoire qui fait plus de 14 milliards de chiffres d'affaires, Sanofi, qui a fait la dépakine, qui a fait un tas de médocs, qui ont foutu des gens au cimetière, ou handicapés, ou passablement malades toute leur vie. Tout ça pour des mises au point de médocs rapportant d'énormes milliards, mais pas assez longuement expérimentés. Actuellement, le vaccin est toujours en phase expérimentale, je vous le rappelle. Et donc, nous sommes des cobayes. Si nous sommes des cobayes, la responsabilité n'est pas au laboratoire. Qui payera les dégâts le jour où on va se retourner juridiquement? Ben, les États. Les États, c'est qui? Ben, ce sont nos impôts, c'est nous. Ou la sécurité sociale, nos cotisations. Si cette vaccination de masse, conduite avec une publicité insolente, au lieu du débat public, scientifique, mené avec la population, dans des cafés, dans des salles des fêtes, il faudrait que nous ayons des débats contradictoires sur les avantages comparés de vacciner, pas vacciner, sur qu'est-ce que réellement le coronavirus, combien a-t-il fait plus de morts que les grippes saisonnières, pourquoi certains y réchappent, pourquoi certains sont, même des vieux, réchappent à l'infection, qu'est-ce qu'ils ont comme mécanisme de défense qui fait qu'ils en réchappent et pourquoi d'autres tombent comme des mouches. Sont-ce des morts, comment dire, à cause du virus ou des morts avec le virus? Morts de l'infection virale du Covid-19 et de son variant Delta ou morts avec l'infection, c'est-à-dire en comorbidité? La France compte une épidémie d'obèses. Il y a plus de 8 millions d'obèses, notamment chez les enfants. Ça a doublé en 20 et quelques années, comme le cancer. Si vous avez un cancer en phase grave, ou si vous êtes très obèse, avec en plus souvent du diabète, en plus des insuffisances cardiaques, parce que pour trimballer 130 kilos, le cœur fatigue, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous risquez de mourir de l'obésité, du diabète, même qu'il est soigné, on l'a vu dans Arte, par les métastases, non, les statines. Et les statines ont une efficacité à peu près ridicule, mais elles ont engrossé les laboratoires du monde entier pendant 30-40 ans d'une façon insolente. Les laboratoires, c'est-à-dire les actionnaires des laboratoires, c'est-à-dire les propriétaires, c'est-à-dire ceux qui ont mis des milliards ou des centaines de millions et qui vivent sur des yachts à 300 millions ou à 100 millions. 100 millions Bernard Arnault, 330 millions Abramovitch. Vous voyez? Pourquoi les gens sont méfiants? Parce qu'ils sont de plus en plus conscients de cela. Avant, on était innocents. Je me souviens de ma jeunesse, à courir à droite, à gauche, dans l'immense liberté, retrouver des rapports hommes-femmes, puisque je suis plutôt dans ce sens-là, dans les années 68, 70, on était heureux, insouciants. La planète était infinie, les bénéfices du capitalisme avec la pub, c'était le consumérisme, c'était la libéralisation des mœurs. On était insouciants. On ne savait pas que les laboratoires... Ah si, il y avait déjà eu quelques petits soucis avec des femmes enceintes traitées et dont les enfants devenaient difformes, handicapés. Mais de là à penser que tout le système fonctionnait d'une façon qu'on pourrait appeler de conflit d'intérêts, puisque les mêmes qui possèdent les labos possèdent la presse, et les gouvernements, visiblement, sont à leur service. Il n'y a qu'à regarder sur les pesticides, quelles décisions notre gouvernement, ou l'Allemagne, ou l'Europe, a en prise. Sans arrêt, ils continuent avec les nicotinoïdes, même si 80% des abeilles ont disparu. Pourquoi ? Parce qu'elle est lobbyée, les pressions de ces multinationales de la chimie agricole sont tellement puissants qu'ils arrivent à faire plier même quelques députés opposés ou quelques gouvernements dans lesquels il peut y avoir un ou deux ministres de temps en temps qui ruent dans les brancards. On les remet dans le droit chemin. Ça craint, les amis. Il se passe bien quelque chose d'inédit pour ces vaccins génétiques anti-Covid. Nous sommes dans les filets des journalistes qui sont aveuglés par leur dépendance au pouvoir politique et aux sources institutionnelles directement liées au ministère de la Santé.
Saturday's child and all about the time when we were running wild. I've been a searching for the dolphins. Sometimes I wonder, do you ever think of me? Oh, this whole world will never change the way it's been. And I'll always avoid, just can't change it back again. I've been a searching for the dolphin in the sea. Oh, but sometimes I wonder, do you ever think of me? Oh Lord, I'm not the one to tell this old world how to get along. I only know that peace will come when all our hate is gone. I've been a searching for the dolphin in the sea.
Vous avez vu comme notre ministre traite même la représentation nationale, où pourtant la REM a une majorité absolue en ayant eu peu de voix vu la masse des abstentions. Bien, et ils disent, mais venez voir dans les hôpitaux, c'est affreux. On dramatise et on tétanise les gens pour mieux les entuber. Regardez bien, ça s'appelle la stratégie du choc. Aux États-Unis, quand il y a eu Katrina qui a noyé sous 6 mètres d'eau la Nouvelle-Orléans, qu'est-ce qu'ont fait les riches, les puissants et le gouvernement ? Ben, quand l'eau s'est retirée, on a privatisé les écoles publiques, des tas d'établissements. Les gens, ils n'en pouvaient plus, ils avaient la tête ailleurs, votre baraque a été détruite, vous êtes en train d'éponger, il faut 2-3 ans pour remettre une baraque en état qui a été inondée. vous avez la tête ailleurs, vous avez pas le temps de vous arrêter pour bouquiner, pour écouter une émission de radio, etc. Critique. Qu'est-ce que vous faites ? Vous épongez, vous cherchez les réparations les moins chères, il n'y en a pas, il faut chercher partout du matériel pour refaire ceci, cela, le plancher qui est tout gondolé. Pendant ce temps-là, on vous privatise et personne ne dit rien, parce que les gens ont le dos tourné. Là, on nous fait le scénario de la cata pour nous détourner de l'essentiel. C'est que nos mécanismes de défense sont à plat. Parce qu'on mange dans l'agroalimentaire une nourriture cancérogène. Cancérogène. Regardez le pain. Qu'est-ce qu'il y a dans le pain ? 27 additifs. Beaucoup de Roundup. Puisque pour faire du blé, il faut quand même 10-15 traitements. Et puis, beaucoup pour panifier, beaucoup de ce qui bouche un peu les boyaux, là, vous savez, que les gens ne veulent plus. Voilà, il faut du blé hybride sur tige courte. Et puis, on va panifier en vitesse. Hein, il faut que ça aille vite. Et on panifie pas comme avant, on laisse reposer la pâte, on laisse jouer les enzymes, et tout ça fait une jolie croûte dorée, fait des goûts incroyables avec des vieux blés, tiges longues, évidemment ils se couchent sous la pluie, tiges longues, et donc maintenant tout ce qu'on veut c'est du rendement. Donc tiges courtes, faciles à couper avec des moissonneuses batteuses géantes, beaucoup de, je trouve pas le terme, de glu, enfin bref, qui facilite la pacinification, beaucoup de surgelés, des usines qui font des milliers de tonnes de pâte à pain surgelée qui partent dans les grandes surfaces, être réchauffées, la cata. Voilà ce qu'on nous fait manger dans l'industrie agricole. Voilà pourquoi les gens sont méfiants. Voilà. Et un autre exemple saisissant, c'est que donc nos journalistes font pas le job. Il n'y a pas de journalistes critiques. Si, il y a reporter, il y a, vous avez vu les pressions qu'a subies Mediapart. Où est-ce qu'il y a de la radio indépendante ? Dites-moi où. Vous avez Radio Chartreuse où je chronique et quelques autres. Des petites radios locales où il y a des gens qui osent dire des choses, mais enfin les audiences sont ridicules. Quand j'intervenais sur Radio BLV à Valence, eh bien, une enquête d'audience avait dit que Radio BLV, pourtant une radio qui émettait beaucoup, hein, qui avait de bonnes... il y avait Radio Méga qui était très engagée avec une audience plus réduite, et Radio BLV, qui elle, comme elle avait interviewé Léo Ferré et des grands pendant un moment, et passé de l'excellente musique, avait monté en audience, disons, à 3-4%. 3-4%, c'était le max des petites radios locales, 3-4%. C'est-à-dire sur 100 personnes qu'on interview, ben vous avez 50 qui écoutent France Inter ou France Culture ou Énergie ou Nostalgie, enfin toutes les radios qui ont beaucoup de moyens privés, beaucoup de pognon d'État, publicité. Donc, pour avoir la publicité, qu'est-ce qu'on ne doit pas dire ? Et donc, 3-4%. Ça rayonnait en gros sur 3-400 000 personnes. Moi, 3-4% sur 3-400 000 personnes, ça fait 10 000 qui écoutent vaguement en se rasant, aux chiottes ou ailleurs. Ça fait pas de quoi, éveiller les consciences, qui est notre but en éducation populaire, c'est de contribuer à conscientiser l'expérience que les gens vivent pour leur mettre un mot, essayer de voir où sont leurs ennemis, leurs amis, et qu'est-ce qu'on peut faire en alternative au système. Étant entendu que vous avez compris que votre fidèle et dévoué chroniqueur de la CEN, la saine cause, André Luny, pour le coup, ce qu'il souhaite, ce n'est pas que l'on, on légalise le mal, mais qu'on l'extirpe. Voilà, qu'on ne fasse pas de la transition avec du capitalisme vert pour prolonger un système malade, et qui nous rend malades, mais qu'on fasse vraiment une modification fondamentale de la propriété et du mal. Car le mal, c'est la propriété privée des moyens de produire de la nourriture. Parce que celui qui produit de la nourriture cherche à faire des ronds, et cherche pas à faire du bon, des ronds, pas du bon. Celui qui vend dans les grandes surfaces préfère le bitume aux légumes. Mais en tout cas, il bouffe avec son hyper la terre qui pourrait produire des légumes. Voilà. Alors, il y a un autre problème, c'est le comptage des morts imputables à la Covid. Morts de la Covid ou avec la Covid, sujet sur lequel on n'a pourtant quasiment pas lu un seul article critique, je le disais tout à l'heure. Mais autre exemple saisissant de parti pris du système. À la fin du mois de mars 2020, il y avait suffi de 3-4 décès liés en réalité à des automédicamentations surdosées. Les gars s'étaient enfilés de la chloroquine à tour de bras. Il y a eu une tempête politico-médiatique sur le thème de la dangerosité de l'hydroxychloroquine. En d'autres termes, pour la plupart des journalistes, les statistiques sanitaires sont indiscutables quand elles vont dans le sens officiel. L'officiel, je vous répète, intérêt des laboratoires et des multinationales, intérêt des États à défendre les intérêts des multinationales, intérêt des radios et des journaux à véhiculer le discours de ceux qui en sont les propriétaires, à savoir les milliardaires. Tout le monde saisit, hein, je suis assez clair. En d'autres termes, toute cette méfiance, elle est liée au fait que les gens, en fait, sont conscients et ne sont plus confiants. Ils sont conscients comment marche le système, et ça, c'est une très belle chose. Voyons la contradiction, hein. On a toujours dit l'histoire, la structure, les contradictions. La structure du système, vous la sentez. La contradiction, c'est que cette manque de confiance, pour moi, est une merveilleuse chose. Ça ne veut pas dire qu'il faut tomber dans tout Jésus qui passe ou tout Bill Gates qui nous enfile des nanoparticules avec le vaccin. Pas poussé. Mais il fait encore pire. Mais ça, il faut le documenter, en parler calmement. Et donc, en d'autres termes, la plupart des journalistes ont eu une certaine malhonnêteté intellectuelle envers ce brave docteur, d'ailleurs, dont on va se débarrasser parce qu'il prend sa retraite, et on ne va pas lui permettre de faire quelques heures de plus comme font beaucoup de médecins à la retraite. Lui, c'est pas pour les ronds, c'est pour chercher. Mais voilà. Alors, voilà. Et les journalistes n'ont pas le temps. Ils sont payés et ils ne lisent pas tous les documents. Vous voyez, votre serviteur, là, il a lu pendant 15 jours, à raison de 3 heures par jour, à peu près tout ce qui se publie. Des bouquins, par exemple, sur la voiture électrique, j'ai dû lire déjà 3-4 bouquins, dont un que j'aime beaucoup, là, un belge. Tanuro, l'impossible capitalisme vert. Voilà, sur le Covid, j'ai lu une série d'articles de 30 pages, et malgré que j'ai fait la fac des sciences, physique-chimie, hein, c'est pas biologie, hein, à Grenoble, ben j'ai bien du mal, et puis ensuite philo et lettres, et puis ensuite sciences de l'éducation, j'ai bien du mal des fois avec l'explication de ce grand chercheur qui émarge à tous les grands labos du monde, qui a dit stopper la vaccination, parce que l'ARN messager, oui, il fait le job. Pour les cas graves, il fait le job. Mais, attention les copains, ce qu'il fait surtout, c'est un peu comme... je prends cet exemple, mais ce n'est pas un bon exemple. Mais je prends cet exemple de les abus d'antibiotiques. L'antibiotique, ce n'est pas automatique. 50 ans après, on se rend compte que l'abus d'antibiotiques, la masse d'antibiotiques que prennent nos enfants et nous-mêmes, ont rendu nos défenses malades, fragiles, affaiblies. À force qu'au lieu de se battre, on est quelqu'un qui se batte à votre place, ben vous avez les muscles ramollos. Nos systèmes de défense naturelle sont devenus ramollos. Non seulement à cause des pesticides, comme je le disais, et des fumées, mais aussi et surtout à cause des antibiotiques de masse que vous trouvez d'ailleurs quand vous n'en prenez pas vous-même, ben vous le trouvez dans le poulet, dans le cochon, parce qu'ils prennent tous les jours des rations d'antibiotiques pour ne pas crever. Ben oui, quand vous avez, comme en Pologne, en Lituanie et même en France, des batteries de 6 à 8 000 cochons, si par malheur, et qu'ils arrivent à leurs 120 kilos d'abattage, si jamais il y a une épidémie, vous êtes chocolat, vous êtes chaos debout avec vos cochons morts. Si on en est des milliers, ben adieu le chiffre d'affaires. Tout est affaire de chiffre d'affaires. Avant, vous aviez des petits élevages, 5-6 cochons par-ci, 15-20 par-là, en air libre. Bon, si un élevage est contaminé, c'est pas grave, on peut indemniser 15-20 cochons. Mais si vous en avez 6000, ça coûte cher, et puis surtout, vous faites tout pour pas. Alors voilà. Donc, comment dire, nous sommes dans une demande, ici à cette radio, de Radio Chartreuse, de que vous lisiez des documents écrits, que vous imprimiez ces documents qui circulent. Je viens d'envoyer à 500 personnes cet article de Mukeli. Bon, c'est 7 pages, c'est pas facile à lire, mais il faut le lire. Je vais envoyer cette vidéo de ce fameux chercheur qui dit que, comme pour les antibiotiques, le Covid, l'anti-Covid, c'est-à-dire l'ARN messager des laboratoires Pfizer et compagnie, Moderna et compagnie, affaiblit gravement nos défenses naturelles. Conclusion, les amis, quand vont arriver les pires épidémies ? J'y ai fait allusion, hein, vous savez, cette épidémie déjà, mini-épidémie liée au permafrost qui fond à toute vitesse dans la taïga. Hein, y a plein de gens, ils déterrent des défenses de mammouth et compte tenu qu'on lutte contre l'assassinat de nos merveilleux éléphants d'Afrique, hein, pour en extraire l'ivoire et le vendre partout, ils extraient l'ivoire des anciens mammouths. L'ennui, c'est que là, il y a eu une dizaine de gens qui sont morts d'un virus foudroyant. Il a fallu tout de suite prendre des mesures de confiner. D'ailleurs, c'est ce qu'on aurait dû faire. Confiner dès le départ les zones à virus, pas tout le monde. Parce que les conséquences du confinement de tout le monde sont catastrophiques. Montée en flèche de l'obésité, perte de repères idéologiques, culturels et philosophiques, montée en masse la consommation du porno dont les effets sur les adolescents sont catastrophiques. Le gars qui a vu du porno depuis l'âge de 9 ans, 100% des gamins de 9 ans ont vu un film porno. Quand il trouve une nana ou un mec, est-ce que ça marche dans les deux sens, ou deux mecs, enfin bon, moi, quelle que soit la forme de sexualité, eh bien, ils pensent que la culture du sexe, l'amour, ben, c'est ce que j'avais expliqué à la dernière émission, voilà, ce qu'on a vu sur le porno. On y va sec, ok les copains, mais c'est pas ça l'amour. Bon, je vous expliquerai une autre fois peut-être qu'il y a plusieurs formes d'amour naturellement, mais que l'amour passe par la culture, la poésie, le romantisme, l'approche. CF, ce merveilleux film que vous avez vu certainement comme moi sur Arte, qui est quand même une merveilleuse station pour l'instant. Ils vont peut-être bien trouver le moyen de la calmer. Ce film où le gars dit, tu sais, quand nous serons amis en amour tous les deux, tu sais ce que je te ferai ? Mais pas avant 15 jours, pas avant un mois, je te sucerai les doigts de pied. Mais quoi de plus merveilleux ? Puis tu sais ce que je te ferai après ? Bon, bref. Vous voyez, c'est ça l'amour. C'est le désir. Et c'est la poésie. Si on n'a pas lu Louise Labbé, comment voulez-vous qu'on aime quelqu'un ? Thank you.
and the wind blew an invocation. I fell asleep at the gate. And I never stepped on the cracks, 'cause I thought I'd hurt my mother. From the nightmare, it sucked me in and pulled me under, pulled me under.
Enfin bref, et ce chercheur, disais-je, tirait une sonnette d'alarme mondiale dans cette vidéo qui circule, mais qu'on a fait disparaître de Facebook, en disant « stoppez tout, il vaut mieux confiner les foyers, pas tout le monde, confiner les foyers, tracer, isoler, enfin vous connaissez le truc, plutôt que cette saleté ». De vaccination de masse obligatoire et généralisée dans les pays riches. Je rappelle que dans les pays pauvres, même pas 10% sont vaccinés. Dans nos pays riches, on atteint les 50%, voire 60%, et dans certains pays, hein, comme Israël ou l'Islande, c'est du 85%. Et on parle de quatrième dose, hein, en France et partout, enfin partout chez les riches, alors que les pauvres, eux, ils tombent comme des mouches parce qu'ils sont devenus obèses avec notre bouffe de merde qu'on leur envoie. C'est nos surplus qu'on leur envoie, hein. C'est les ailes de poulet surgelées, hein, pleines de produits chimiques qu'on envoie au Sénégal et qu'on a tué des dizaines de millions de petits élevages bio propres en Afrique en envoyant des ailes de poulet. Évidemment, c'est moins d'un euro, alors la femme africaine qui a point rond, elle va faire une sauce, elle va mettre les ailes de poulet, c'est un bon goût de poulet, et voilà, on va faire l'affaire comme ça, alors qu'un poulet africain était plus cher, naturellement, il a mangé du sorgho, du millet, un peu de maïs, et tout ça, ça coûte cher. Et ça fait un poulet plus cher. Donc là, on bouffe de la merde, venue de l'Occident, et après on s'étonne qu'on a beaucoup d'immigrés, beaucoup de villes sursaturées. Vous voyez, tout se tient. Alors, les politiques publiques, eh ben, il faudrait peut-être qu'on y réfléchisse, parce que la fond de la question, c'est qu'on développe en politique publique nos défenses immunitaires. C'est ce que j'expliquais dans mon petite conférence d'Aix-les-Dines-les-Bains, que la santé devrait servir en priorité à renforcer nos défenses naturelles ravagées par le mode de production-consommation industrielle capitaliste. Comment voulez-vous qu'on ait confiance quand la publicité vous ment inhéantément sur la... Vous avez souvenu de ce fameux champion de basket qui mangeait de la danette. J'en veux encore de la danette. Et vous aviez 4 mètres de danette derrière mangée par le champion de basket. De la danette, il n'y a rien de pire pour la santé que la danette. Et pourquoi aussi, comment dire, on n'est pas confirmé parce que en 2020, les compteurs ont explosé. 2474 médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, cruciaux pour des gens qui souffrent de crise cardiaque, qui ont du diabète, etc., se sont trouvés en rupture de stock. Vous entendez bien ? 2474, sans compter les autres qui manquaient à l'appel. L'accélération est phénoménale. 1500 pénuries en 2019 contre 44 en 2008. Les médocs en question restent introuvables pendant près de 4 mois en moyenne. Et beaucoup sont vitaux. Et il y a des vieux qui meurent. Selon les rapports, les pharmaciens passent chaque jour 15 minutes à 1 heure à faire la chasse au stock. Pourquoi ne pas lancer un pôle public du médicament ? Par exemple, l'Espagne, l'Allemagne et l'Australie ont expérimenté une production publique de cellules CAR-T. Voilà, le CAR-T est utilisé contre le cancer. Vous serez content de le savoir, le CAR-T aide à neutraliser les cancers agressifs. Et quand ils se sont mis à le produire, c'est un coût défiant de toute concurrence, 35 000 euros en Allemagne, dans une structure à but non lucratif, c'est-à-dire publique. Public. Quand tout sera privé, nous serons privés de tout. Vous voyez, tous les labos sont privés, mais nous sommes privés de 2474 médicaments en 2020. Ça s'est accru hein, cette année. Eh bien, production publique. Donc, on vient dans une espèce de... On vient dans une espèce de, ben, d'état responsable de la santé publique. Il y a le Médoc et puis il y a les défenses. Je ne perds pas le fil. On reviendra aux défenses. Ben, c'est un coup défiant toute concurrence, parce que les actionnaires sont pas là comme à Sanofi. 14 milliards de chiffre d'affaires, 8 milliards pris par les actionnaires. Je suis millionnaire, j'ai mis 100 millions chez Sanofi, à la fin de l'année j'ai 115 millions. Et oui, 15%. Et c'est 15%, c'est autant de labos, de pas de recherche, la preuve c'est que Sanofi, là, en dessous de tout, ni vaccin, ni que dalle. Voilà. Parce que les laboratoires de recherche, ça coûte trop cher. Donc on préfère faire appel à la recherche d'État, puis des petites start-up. Avec les crédits de l'État, on fait une petite start-up, et la petite start-up, elle est rachetée par le gros laboratoire. Donc le gros laboratoire rachète pour pas cher une petite start-up, qui elle-même a été lancée avec des recherches publiques qui ont coûté cher aux contribuables et à l'État. Et comme ça, on peut faire du profit privé sur de la dépense publique de recherche-développement. Voyez, là, la combine, ça s'appelle partenariat université-start-up. C'est bien joué. Tout ce qui ne rapporte pas à l'État et tout ce qui rapporte au privé. Tout ce qui pollue dans la nature, tout ce qui rapporte dans le portefeuille des actionnaires. Donc 35 000 cartes T pour soigner votre cancer en Allemagne, dans une structure publique, mais c'est 300-350 000 euros la dose chez Roche, laboratoire suisse, polluant le Rhône et tout, ou Gilead, elle est pas belle la vie, 300 000 à 350 000 la dose chez Rose ou Gilead contre 35 000 euros. En Allemagne. Sans surprise, Macron n'a pas retenu cette idée bolchevique chez les Allemands, vous rendez compte, de faire du crédit public consacré à la recherche fondamentale publique et une entreprise publique de fabrication des médicaments fondamentaux de lutte contre le cancer. Ah non, lui ce qu'il veut c'est du partenariat public-privé. Et vous voulez qu'on ait confiance ? Mais non, il confie au privé les clés de la maison. Les grands labos, eux, je vous l'ai dit, ne se donnent pas. Ils achètent des molécules prometteuses aux biotech, petites entreprises, dont deux tiers sont issus de travaux universitaires, donc payés par l'État, par nous. C'est ce qui s'est passé pour la Zolgensma. Comme l'a raconté le canard, le Généthon financé par les dons et les subventions publiques, parce que le Téléthon, l'État met à la poche, a mis au point cette thérapie génique avant de céder le brevet en 2018 pour 13 millions d'euros à une start-up Avexis, elle-même rachetée 7 milliards d'euros, oui, par Novartis. À l'arrivée de cette folle bulle financière, le traitement a été commercialisé aux États-Unis pour la bagatelle de 1,6 million d'euros par patient. Voilà comment on traite le cancer. Avec la Zolgensma. Efficace, hein ? Très efficace. Mais si vous n'avez pas 1,86 million, vous, par personne, pour vous faire traiter, vous l'avez dans le baba. Votre cancer va exploser. Et oui, mais comment se fait-il que ce brevet, 13 millions d'euros, soit racheté 7 milliards par Novartis ? Qui le refourgue à 1,86 million, le labo a coûté 13 millions. Une seule dose, c'est 1,86 million. Eh bien, voyez le bénef. Ce vaste casino, c'est ça qui ne nous donne pas confiance. Ça favorise les trouvailles les plus rentables. Voilà. Et adieu, le public. Quand tout sera privé, nous serons privés de tout. Voilà. Et pourquoi ? Nous disions dans ma lettre à la députée, dont vous pouvez prendre connaissance sur la liste Savoie-Archartreuse de la CEN, il y a 300 personnes, hein. Vous pouvez vous y inscrire, hein. Vous m'envoyez un petit SMS, je voudrais être sur Savoie-Seine, André Duny, 06 75 80 05 120. Voilà, je disais dans mon topo de Digne-les-Bains, la santé, c'est en priorité de renforcer nos défenses naturelles ravagées par le mode de production capitaliste, pas seulement par des exercices perso ou par des drogues perso, mais par une organisation, parce qu'aujourd'hui, c'est ça, hein, l'escroquerie sur toute la ligne, embrasser les arbres, vous avez moins de cancer, aller dans la forêt à 30 euros de l'heure, comme on le voit sur le bord des Aiguebelettes, c'est hallucinant cette privatisation de la nature, parce que pour aller rêver au bord du lac, il faut payer 30 euros par personne pour une heure et demie, non mais c'est n'importe quoi, voilà, cette espèce de marchandisation et de la permaculture et de la nature par des médiateurs, mais attendez, vous n'êtes pas assez grand, vous, pour aller dans la forêt, embrasser les arbres, et puis rêvasser, tranquille peinard, tranquille Émile, peinard Aymar, cool Raoul, malaise Blaise. Et bien là, des exercices perso, mais par une organisation collective, la société, par des politiques publiques, notamment pour instaurer, alors là on a vu une politique du médicament, hein, avec une levée des brevets, bon ça tout le monde en parle, je vous en fais grâce, mais pas tant de personnes qui vous disent qu'il faut instaurer des ceintures vertes bio, voir ma précédente émission hein, sur la catastrophe climato-sociale, hein, des ceintures vertes bio. Et c'est là que tout coince, tellement on a laissé faire le produit privé artisan de la malbouffe cancérigène et tellement on a laissé faire des élus qui ont fait des lotissements à perte de vue, c'est un alexandrin, du Bétron à la place et du goudron à la place des légumes, du béton, du goudron, du bitume à la place des légumes, des hyper à la place des terres, vivrières, nourricières et restauratrices de nos défenses. Parce que si nos gamins bouffaient 100% bio, comme j'ai dit à la précédente émission, comme à moi surtout depuis 12 ans, eh bien vous verriez que leur défense immunitaire se renforcerait, ils ne choperaient pas le Covid, ou alors ils chopent une forme bénigne du Covid. Pourquoi des vieux chopent le Covid et sont pas malades, alors que ceux qui ont les pathologies associées vont au cimetière pour une part qui n'est sans doute pas la part qu'on nous indique, parce que on voudrait bien qu'on sépare la statistique mort avec le Covid ou mort par le Covid. Être certain que ça, bien le Covid et pas là, une mortalité associée. Voilà. Par comparaison, disait Mukwege, nous avons compté le nombre de morts occasionnées par l'administration des différents vaccins, et en 30 ans, ces vaccins. Donc, je vous le disais tout à l'heure, la vaccination anti-Covid a tué 5 fois plus que dans 30 ans de vaccination. Alors, nous avons envoyé à la députée, je vais terminer par cela, cette fameuse lettre où nous lui disions que c'était pour le prochain débat parlementaire portant le passeport sanitaire généralisé, c'est les atteintes aux libertés publiques et individuelles constituent ces annonces avant, mais ça y est, c'est fait. Rendre obligatoire l'administration de produits dont la phase expérimentale est toujours en cours, l'efficacité incertaine et les risques, je viens d'en parler, donc des effets secondaires notables, dont de nombreux décès, est politiquement imprudent, moralement condamnable et juridiquement illégal. En effet, je note que les vaccins autorisés Covid disposent uniquement d'une autorisation conditionnelle en tête jusqu'en 2023. Donc vous êtes testé, vous n'êtes pas vacciné. Les laboratoires fabricants l'ont d'ailleurs bien volontiers reconnu en délaissant leurs responsabilités sur les potentiels effets secondaires. La vaccination obligatoire va à l'encontre de la liberté de chacun d'apprécier la balance entre son bénéfice et les risques pour recourir ou non au tout nouveau vaccin génétique à ARN messager. Pour l'instant, moi, le balance, elle penche contre. Voilà, mais c'est moi, hein. Vous faites bien comme vous voulez. De nombreux textes juridiques condamnent ce que le gouvernement prévoit de mettre en place, à commencer par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans cette Déclaration universelle des droits naturels, inaléables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs, et que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif doivent être à chaque instant comparés avec le but de toute institution pub politique, et que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur ces principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. Donc, moi, je suis très attaché à rester en bonne santé, sachant que le principal est de renforcer mes défenses immunitaires. L'alimentation de nos concitoyens est bien un des premiers moyens de cette santé. Elle m'a permis de vous rappeler que nos gouvernants s'en soucient guère de fait, ayant démissionné devant l'agriculture industrielle, l'industrie agroalimentaire, les hyperdistributeurs qui assurent des culbutes ultra profitables sur les prix. Par exemple, à Pont-de-Beauvoisin, les endives bio étaient à 14 euros le kilo. Attention, hein, les endives, je vous ai bien dit, c'est des mutagènes. Hein, c'est croisé avec du colza, avec du tournesol. Bravo, hein, on ne sait pas bien ce que ça a donné dans l'organisme, et on sait que tous ces hybrides ou ces mutagènes ont 20 à 40 fois moins de nutriments qu'une bonne endive de vraie endive population ancienne, quoi, cultivée en terre à ciel ouvert, et excellente pour la santé, parce que l'amertume, c'est très bon pour prévenir toutes sortes de maladies et pour les émonctoires. Voilà. Donc, ici à Pont-de-Voisin, l'endive bio, donc mutagène, à 14 euros le kilo à Super U, alors qu'à côté, au magasin de producteurs, un producteur du coin les vendait 3 euros. 3 euros. Vous voyez, 14 euros, 3 euros. 14 euros, elles avaient fait 1500 km. 3 euros, elles avaient fait 12 km. Voilà. Les surfaces dépassent largement deux fois la surface de la Corse. Ben voilà, on est privé de terres agricoles périphériques aux villes qui avaient été jadis des terres maraîchères extrêmement productives pour nourrir les villes. Maintenant, on n'a plus de quoi nourrir les villes parce que c'est tout pris par des grandes surfaces. La pire étant Amazon, avec des surfaces moyennes de 70 000 m², c'est-à-dire 7 hectares. Voilà, je suis vacciné contre la tétanos et la rougeole. J'ai la chance de pouvoir me nourrir essentiellement d'aliments sains, étant de la classe moyenne, mais une classe moyenne insurgée et révoltée et solidaire du peuple. Et je réclame un référendum d'initiative citoyenne après un long débat sur la meilleure façon de lutter pour améliorer mes défenses et lutter contre le Covid. Ça fera un très beau référendum d'initiative citoyenne, pas du tout comme en Suisse, n'est-ce pas? Parce que nous, on se battrait pour qu'il y ait la liberté de la presse. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait, les Suisses? Eh bien, ils ont voté pour les pesticides dernièrement. Et ils n'ont pas assez chaud, les Suisses. Patatras, c'est non. Les Suisses veulent continuer de rouler pas cher. Le slogan des amis de la bagnole, plus 12 centimes le litre d'essence, ça va pas le chalet, a gagné. Signateur de l'accord de Paris sur le climat, la Suisse a envisagé dans ce cadre d'émettre d'ici à 2030 50% de gaz à effet de serre de moins. 3 années de débat, un projet de loi sur le CO2, tous les partis étaient pour, et soumis ce week-end à référendum, la loi a été retoquée. Voilà. Voilà. L'interdiction des pesticides a été mise en référendum aussi, et les Suisses, ils ont voté pour. Les 2/3 ont voté non à l'abolition des pesticides et les vaches suisses sont bien gardées. Je vous salue bien bas et j'espère que les quelques données que je vous ai envoyées vous auront rassuré ou inquiété. Elles sont toutes basées sur des données incontestables. Je n'ai jamais été poursuivi pour fake news. Et si vous voulez ces documents, eh ben, laissez-moi vos coordonnées mail. Je ne vous enverrai que ça. Et ne transférez jamais votre adresse à qui que ce soit, contrairement à votre smartphone qui vous espionne en permanence. Bien le bonjour et à bientôt. C'était André Duny, la scène cause chronique sur Radio Couleur Chartreuse, Radio Vercors et Radio Grésivaudan et bientôt Radio Nord Isère, Radio Couleur Nord Isère Lyon.
C'était la scène cause pour un bien commun et un monde vivable.